Bienvenue dans Rythme, le podcast qui donne le tempo à ton entreprise. Je suis Alexandre du cabinet de recrutement de Wheel of Devs et dans chaque épisode, j'invite un ou une expert RH. On va débattre des dernières tendances, mais surtout, on est là pour te filer des conseils en or et faire de toi un véritable stratège pour t'aider à piloter ta boîte avec efficacité. Cette émission est diffusée en direct sur LinkedIn et tu peux aussi la retrouver en podcast. Alors n'hésite pas à nous suivre pour être au courant des prochains épisodes. Et maintenant, installe-toi confortablement. Enfile ton casque, monte le son et rendez-vous au premier virage. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le studio Wheel of Dev pour ce nouveau podcast sur les RH et la transformation des entreprises. Aujourd'hui, pour cette grande première, je suis très heureux d'accueillir Caroline Lavallée, du haut de ses 20 ans d'expérience, qui va nous parler un petit peu de toutes ces années, de toute cette transformation du recrutement et des RH, et qui va nous apporter beaucoup de lumière, du coup, sur le rôle stratégique qu'a pris le recrutement, au final, dans le fonctionnement des entreprises, aussi bien sur le point de vue humain qu'économique. Comment tu vas, Caroline?
Très bien. Je suis ravie d'être là. J'avais eu un premier contact avec l'équipe de Wheel of Dev, super. J'ai eu l'occasion de découvrir aussi ce que vous faites sur la plateforme. J'ai trouvé ça très quali. Et le premier échange qu'on a eu ensemble m'a convaincue. Donc, je suis vraiment très contente d'être là, surtout que c'est une première pour moi. Sur un live LinkedIn.
Super, on est ravis de t'accueillir. Je le redis, hein, parce que c'est vrai. En fait, avoir quelqu'un qui est sur l'île et qui a envie de changer les choses, bouger les lignes, et qui fait évoluer le métier de recruteur aussi. Nous, on est super contents de pouvoir échanger avec toi. Pour les auditeurs qui te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous expliquer ta carrière, comment t'as pu évoluer, comment t'es arrivé dans le recrutement et où t'en es aujourd'hui?
Ok. Alors j'ai un parcours éclectique, en fait, une formation universitaire entre maths, langue étrangère, commerce international.
Ok.
Et j'ai un parcours de 20 ans. Majoritairement dans l'accompagnement des entreprises. Donc, j'ai beaucoup travaillé en B2B sur des sujets de développement commercial, industriel, mais aussi sur le développement humain. Il y a 15 ans, en fait, j'ai rejoint le monde du recrutement. Okay. En rejoignant la filiale digitale du groupe Figaro. Donc, tous les outils de gestion de candidature, les job boards.
Donc, au début de la professionnalisation du métier,
voilà,
en fait.
Exactement. Et okay. Au début, voilà, avec le digital. Donc, c'est génial parce que j'ai appris les coulisses, en fait, le fonctionnement du moteur de recherche, le ranking des annonces, mm-hmm. etc. Et j'ai rejoint un cabinet de recrutement et de gestion de carrière il y a 10 ans. Donc, okay. Vraiment pour apprendre le métier de recruteur, de consultante en recrutement, en accompagnement des entreprises, mais aussi des salariés où je faisais de la gestion de carrière et de l'accompagnement à la reconversion.
Trop bien.
Donc voilà. Donc,
tout le spectre finalement des RH côté humain.
Plutôt voilà, recrutement, ouais. Développement des compétences. Et puis c'est ce qui m'a amené aussi finalement cette expérience de 10 ans en cabinet à avoir envie de me lancer.
Ok. Et qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, du coup? Explique-nous concrètement.
Alors, j'ai lancé une structure qui s'appelle Recruteur Responsable.
Okay.
Alors, pour plusieurs raisons, en fait, en cabinet, j'ai été plus finalement touchée par la guerre commerciale que par la guerre des talents. Je travaillais dans un cabinet qui fonctionnait pas au succès, donc on travaillait beaucoup avec un acompte qui était assez conséquent, ce qui se pratique pas trop sur le marché lillois, et je me suis rendu compte qu'il y avait un modèle économique, on en parlera après, qui est uniforme et peu remis en question. Et j'ai eu l'occasion de travailler au succès pour me mettre aussi un peu dans la course. Et j'ai pu observer qu'il y avait des pratiques qui étaient pas toujours très bonnes parce que quand on travaille au succès, en plus en concurrence, on n'a pas le temps en fait de prendre soin finalement des parties prenantes, de creuser le besoin, de comprendre la culture et surtout d'amener des profils un peu différents.
Okay.
Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quand même peu de personnes qui étaient formées, les personnes qui participaient au recrutement. Donc, c'est ce qui m'a amené à créer Recruteur Responsable. Et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises sur une sorte de prestation de recrutement augmentée où je vais donner des leviers à l'entreprise pour transformer les conditions de travail et pour s'ouvrir à de nouveaux profils.
Okay.
Donc, c'est pas une baguette magique. On va pas forcément faire moins cher et plus rapide, mais c'est se dire que même quand c'est difficile en recrutement, on va apprendre, progresser et améliorer les prochains.
C'est ouais, cette notion en fait de coût d'investissement, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux clients, c'est qu'au final, enfin en tant que consultant, il y a un rôle un peu 360 où on a la casquette sales et en même temps la casquette recrutement. Et toi, tu essaies de bouger les lignes justement et d'apporter une vraie valeur ajoutée sur du conseil, de l'accompagnement à long terme sur plusieurs périmètres. Donc en tant que recruteur engagé et augmenté, en prenant plusieurs sujets en main. Alors pour le coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du thème qu'on va aborder. Comme je vous disais, donc le recrutement est un levier stratégique dans le développement des entreprises. Donc sur une première partie, on va aborder l'évolution du recrutement que tu as bien vu évoluer du coup depuis 20 ans. Ça s'est professionnalisé comme on le disait. On a plein d'outils maintenant qui sont super efficaces. Il faut savoir faire le tri aussi par moment et prendre ce qu'il y a à prendre. Et ensuite, parler justement de cette notion de prestataire, comment quel modèle économique pour l'avenir, comment on peut challenger ça. Toi, tu le fais très bien aujourd'hui, et du coup, on peut apporter aussi quelques réponses, quelques lumières sur ce rôle-là. Et enfin, on parlera de la RSE, gros sujet aujourd'hui dans les RH et le recrutement. On va pouvoir digresser tranquillement là-dessus pendant la fin de ce podcast. Avant de commencer, j'ai mis en place 3 questions rituelles. C'est un truc un peu classique dans les podcasts, mais c'est plutôt sympa. Étant épicurien, moi, venant du monde de la restauration, j'avais envie de te poser, mais c'est quoi ton plat préféré?
Alors, ça a été, j'ai cherché, hein. J'ai bien réfléchi. Il y en a trop. Donc, j'ai choisi les tapas. Parce que je me suis dit, finalement, les personnes qui me connaissent bien savent qu'au resto, je vais toujours avoir envie de goûter le plat du voisin. Donc,
c'est toi. OK.
C'est moi. Donc, j'aime bien les tapas, l'idée de pouvoir picorer, de partager aussi, d'être sur de la gourmandise. Et puis, je suis plus attirée aussi par la nourriture méditerranéenne, entre guillemets. Donc, voilà.
Le soleil, quoi. Parce que ici, on n'a pas trop souvent, du coup, on l'a dans l'assiette, quoi, finalement. Cool, très cool. Ta Madeleine de Proust musicale.
Alors, je dirais les Red Hot Chili Peppers. En fait, je les ai découverts au lycée. Et je pense que quand j'entends Under the Bridge, ça me ramène plus d'une vingtaine d'années dans le passé.
En arrière, moi, j'ai la petite musique de Californication qui se met en route avec le clip qui est hyper digital. Déjà, à l'époque, c'était très précurseur. Effectivement, cette petite musique qui arrive dans ma tête. Et puis, on va pouvoir, je pense, faire une transition avec cette dernière question rituelle. C'est quoi ton dernier Eureka?
Alors, le dernier Eureka, je pense que c'était un vrai beau Eureka qui a conditionné pas mal mon activité. En fait, j'ai rejoint deux réseaux en 2023, le réseau Alliance, où j'ai eu la chance d'être faire partie de la promo des jeunes pousses responsables.
Trop bien, félicitations.
Merci. Et le club Noé, qui est spécialisé dans l'économie, la fonctionnalité, la coopération.
Va falloir que tu m'expliques un peu plus ça, parce que je connais pas du tout le club Noé.
Ce sera sur un autre sujet, je pense. Mais en résumé, en tout cas, ces deux réseaux vont vraiment accompagner les entreprises et les aider à construire un modèle économique plus responsable.
Trop bien.
Et introduire la notion de les sujets sociétaux, environnementaux et les placer au même titre finalement que les objectifs de rentabilité économique.
C'est challenger le modèle, Orange par exemple, qu'on entend beaucoup.
C'est challenger en fait l'idée de se dire qu'on doit, pour gagner plus, on doit toujours produire plus au détriment finalement de l'écosystème,
de des
concurrents et d'avoir un modèle où il n'y en a que un qui gagne et les autres perdent.
Ok.
Donc ça a été, et le vrai Eureka, ça a été de travailler sur la coopération et de se dire que c'était la clé aussi demain pour changer de modèle économique. Mais la coopération ne se décrète pas. Et ça a été une vraie prise de conscience. Donc c'est l'intention est là, mais maintenant la coopération, ça se travaille. Et pour concrétiser ça, il faut vraiment partir des besoins de chaque partie prenante et avoir une très bonne compréhension aussi de l'impact, des externalités positives, négatives, pour arriver à créer de la valeur ailleurs et autrement.
Ok.
Donc ça va être notamment mes objectifs dans l'année, ça va être de concrétiser, de faire naître des coopérations avec 2-3 partenaires clés cette année.
Ouais, c'est cette notion justement de pas être prestataire, mais d'être plutôt partenaire finalement sur l'ensemble des périmètres. C'est très cool. Je te propose qu'on parle du premier sujet, donc l'évolution du recrutement. Déjà, par rapport à la demande, toi, comment t'as ressenti l'évolution de la demande depuis que t'as commencé dans le monde du recrutement? Qu'est-ce qui a vraiment changé finalement dans ton quotidien
par rapport à ce sujet.
Alors, je trouve que le métier en lui-même, il a vraiment beaucoup évolué. Déjà, quand je suis arrivée en cabinet, on était à l'ère de la chasse aux têtes.
Ouais.
Voilà, où on appelait, où on. Alors, je suis arrivée au moment où il y avait quand même le digital, était déjà là. En fait, on utilisait le web, mais on était encore dans cette logique de chasse de tête très confidentielle où on identifiait des personnes, on reconstituait des organigrammes.
Tu les appelais au bureau directement.
Avec des scénarios.
Ouais.
Et alors, j'avoue que moi, le web m'a sauvée parce que en tant que bonne introvertie, j'ai préféré aller chercher des infos. Et je pense que ça a été une vraie révolution parce que ça a donné la possibilité d'avoir de la donnée sur tout et sur tout le monde.
Cool.
Et donc, l'enjeu, ça a été de comment on va trouver, comment on va chercher, comment on va trouver en fait les bonnes personnes.
Ouais.
Et l'évolution, elle s'est faite, enfin même dans les annonces, je me souviens, voilà, quand on diffusait une annonce, on avait 500 candidatures, donc c'était énorme à trier. Quand tu avais plusieurs postes, il y avait beaucoup de choses. Et avec l'évolution, finalement, on est passé d'un enjeu de trouver la bonne personne à engager les bonnes personnes. Donc les résultats aux annonces ou les retours annonces se sont taris un peu progressivement. Et l'enjeu, ça a été de se dire, on approche des gens qui répondent pas parce
ouais.
que ils ont compris que on les approchait pas toujours avec le bon poste, qu'on connaissait pas tout ce qu'il y avait derrière, et donc ça a été vraiment convaincre et susciter l'intérêt et faire des non candidats des candidats.
Et comment tu fais pour du coup justement engager, quelle est la bonne méthode? Il y en a plusieurs j'imagine, mais la tienne c'est quoi?
La mienne, ça va être de personnaliser au maximum, de comprendre pourquoi, pour qui je recrute, de comprendre ouais. le contexte et d'apporter de l'information en fait aux personnes que j'approche.
Et t'automatises cette approche-là ou vraiment tu fais toi
J'ai
la
pas
manœuvre.
Réussi à l'automatiser ouais. parce que je me dis il faut vraiment être hyper qualitatif en amont, mais je pense que c'est un des sujets d'évolution hein, dans le recrutement où voilà on a de l'automatisation, on a l'IA avec ChatGPT, mais pas que. On a il y a vraiment de plus en plus d'outils et de techniques finalement dans le recrutement. Mais je pense que l'important aujourd'hui, c'est de revenir sur la personnalisation. Et je crois qu'on est à une troisième étape, c'est-à-dire au-delà de sourcer, d'engager. Maintenant, c'est comment on va créer de la confiance
ouais.
et comment on va la nourrir et la développer.
Le lien, finalement. Vraiment,
voilà.
En fait, avant, on faisait une préqualification, un entretien et ensuite, on rentre dans le process. Aujourd'hui, y a vraiment des échanges. Il faut réussir à prendre
du
temps.
Plus, en
fait. C'est ça
ouais.
suffit plus. Et il y a un vrai enjeu d'anticipation et je pense qu'on va y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais cette notion de compréhension du besoin côté client, en fait, aujourd'hui, on peut plus se contenter d'un brief de poste d'une heure avec un RH ou un coordinateur du recrutement. Il faut aller mapper bien l'organisation et bien challenger le besoin. Et ça, du coup, c'est ce que tu as mis en place aujourd'hui. Et ça répond aussi à l'exigence candidat. Cette notion-là, avant, on posait pas trop de questions. On allait
ouais.
et puis on dégrossissait au fur et à mesure qu'on avançait dans le process. Aujourd'hui, il faut qu'on ait toutes les informations avant de s'engager.
Au maximum.
C'est ça. Hein.
En fait, je pense qu'il y a un facteur qui est peut-être nouveau, c'est qu'avant, on démarrait notamment en recrutement avec un cahier des charges. Et ce cahier des charges, finalement, à la fin, l'objectif, c'était d'arriver à trouver quelqu'un qui répondait à ce cahier des charges.
Ouais.
Et aujourd'hui, le facteur temps, l'évolution, le fait que une des entreprises qui soient obligées parfois de se repositionner sur le marché assez rapidement
oui.
Fait qu'on a un facteur d'évolution en fait de dynamique et donc on est sur des facteurs qui bougent et qui bougent parfois dans le processus de recrutement. Et on est plus beaucoup moins dans une approche industrielle et plus finalement on va travailler un peu plus avec l'agilité comme
ouais.
on le fait en informatique
fait.
Où le cahier des charges on va le construire ensemble. Et moi ce que je vois là dans l'entreprise que j'ai pu accompagner cette année, le vrai plus ça a été finalement de pouvoir co-construire la fiche de poste avec le candidat.
Trop bien. Avec le
candidat. Voilà. Et donc de partir. Alors on part du besoin de l'entreprise, hein, de ses enjeux, savoir où elle veut aller et ce qu'on va chercher. Mais ça va aussi finalement le poste, il va bouger en fonction de la personne qu'on va trouver. Et la dernière étape, on l'a pas mal organisée, notamment autour de la co-construction du poste. Et ça, je trouve que c'est vraiment nouveau parce qu'on est on n'est plus dans une logique descendante où on cherche à répondre à un cahier des charges, mais on va co-construire vraiment le lien et la coopération dans l'entreprise.
Et ça répond à justement le niveau d'exigence des candidats qui a bougé finalement et qu'ils ont besoin aussi d'avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais aussi de se créer un peu le poste en fonction de là où ils se sentent à l'aise ou pas. Quelles sont les externalités que tu vous rends compte face à cette co-construction? Parce que parfois, il peut y avoir aussi des vagues un peu négatives, c'est-à-dire la fiche de poste, à l'origine, il devait y avoir telle et telle et telle fonction, sauf que le candidat, il prend celle-ci et puis éventuellement une autre, mais pas celle qui était prévue. Comment tu arrives à, où tu mets le curseur dans ces cas-là?
Après, je module un peu et je pense qu'il y a des inégalités, mais il y a des grandes disparités quand même selon les types d'entreprises, le secteur. Voilà, est-ce qu'on est dans un fonctionnement où on va chercher de l'hypercroissance ou est-ce qu'on est plutôt dans une dynamique de stabilisation et on va pas forcément avoir la même approche du recrutement. Donc cette dimension de co-construction, je pense qu'elle se fait pas forcément partout et elle est à construire finalement un peu avec tous les acteurs.
Ok. Parce que en plus, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand tu t'es présenté, ce que j'ai appris en échangeant avec toi, c'est que t'as vraiment une spécialité clé, c'est que tu bosses quasiment uniquement sur des créations de postes.
Oui, alors souvent, et c'est vrai qu'on peut pas recruter par exemple sur des créations de postes comme on recrute sur profil, par exemple. Donc, il y a une grande différence, c'est que la plupart du temps, quand une entreprise crée un poste, il arrive qu'elle n'ait pas les compétences en interne, donc pas de référentiel non plus, ouais. Pas de spécialiste sur le métier. Les objectifs sont à construire, les missions également. Donc, dès la prise de besoin, finalement, on va travailler ensemble sur la co-construction de ce qu'on va rechercher, en fait.
Et cette co-construction, tu l'as fait avec le hiring manager, le N+1, comment tu fonctionnes vis-à-vis de ça? Déjà, ça veut dire que le candidat, il a été sélectionné dans le process, donc il est arrivé quasiment au bout. C'est quoi? C'est avant la propale? Comment ça se passe?
Je pense que ça se fait tout au long du processus. Ouais. Et pour revenir, je trouve que c'est super intéressant de se dire avec qui on travaille, notamment sur la prise de besoin. Je pense que les échecs de recrutement aujourd'hui arrivent souvent parce que le recrutement est resté complètement décorrélé finalement de la stratégie de recrutement.
Oui.
Je vais donner un exemple. J'avais à recruter un gros poste sur un poste C-level dans l'industrie. Les échanges, alors la prise de besoin s'est faite avec la RRH qui m'avait donné beaucoup d'éléments. Et en fait, dans le processus, un candidat a passé le premier cap. Il a rencontré 4 membres du comité de direction.
C'est un gros process.
Un gros process. Mais on était sur un poste en comité de direction. La dernière étape avec le DRH, qui n'avait à aucun moment été dans la boucle. Et en fait, j'ai reçu un mail en me disant, on ne retient pas ce candidat, pas de leadership, la prise de référence n'a pas été concluante.
Fameuse question de la prise de référence.
Et donc là, je me suis dit, ça fait plusieurs mois qu'on cherche. À aucun moment, les interlocuteurs finalement qui ont été décisionnaires n'ont participé à la prise de besoin, l'analyse de besoin. Et ça, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui parce que ce critère-là de leadership, à aucun moment, l'a défini dans le contexte et par rapport aux attentes de l'entreprise.
Ok.
Et je pense que aujourd'hui, l'idéal, en tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est d'avoir la personne qui va recruter. Alors, ça peut être le manager, ça peut être la RRH, mais ça va être aussi d'inclure finalement des personnes de l'équipe. Quand on a la chance d'avoir déjà des personnes qui vont travailler ou qui sont dans l'équipe, de les interroger aussi.
Très clair.
Pour connaître tout l'environnement, les projets réellement, savoir quel va être le métier dans son quotidien, et d'inclure aussi un membre du CODIR pour avoir la vision sur l'évolution des projets, du marché et les enjeux que la personne va rencontrer dans son évolution de poste.
C'est ça, c'est qu'en fait, souvent, on recrute pour un instant T et au final, on n'engage pas forcément la réflexion sur à 6, 12, 18, 24 mois. C'est hyper important, en fait, au final, parce que déjà, le candidat, il a cette attente-là. Comment va évoluer mon poste? Qu'est-ce que je vais devoir acquérir comme compétences si je les ai pas? Comment l'entreprise va m'aider à acquérir ces compétences si je les ai pas? Et aussi aux collaborateurs de se positionner par rapport à l'arrivée de ce candidat-là dans l'entreprise et de comprendre un petit peu comment à long terme ça va fonctionner parce que sur des créations de postes, forcément, ça bouge un peu l'organigramme. Donc ces questions-là, si elles ne sont pas anticipées, ça peut créer des frictions, des tensions et arriver sur des échecs de recrutement. On parlait tout à l'heure de recruteurs augmentés. Quels sont toi tes outils, tes méthodes justement qui, au travers de ces échecs de recrutement, je pense qu'on évolue aussi hein, quand on tombe, on se relève et puis on devient plus fort. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon de ce type de raté et qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour pouvoir pallier à ces problèmes-là?
Alors c'est aussi, je trouve, avec l'évolution du recrutement, c'est que le métier s'est quand même beaucoup structuré.
Oui, tout à fait.
Et il a pris d'autres disciplines On a beaucoup, je pense déjà les outils, l'aisance avec, on parle de stack technique aussi en recrutement, tu as le métier de RecOps qui est apparu aussi.
Ouais.
Donc, il y a de plus en plus d'outils, d'intégration, d'automatisation dans le recrutement. Donc, je trouve que c'est intéressant de s'y former, de s'y intéresser, même si on ne maîtrise pas tout, mais en tout cas d'être en capacité d'avoir ça.
Il faut être curieux, de toute façon,
de ce métier. Il y a aussi l'apport du marketing qui est énorme. Ouais. Aujourd'hui, on le voit. Ça a commencé avec le sourcing comportemental, on parle de persona, on va parler d'inbound, de comment on va construire ce tunnel pour transformer un non-candidat en ambassadeur. Donc ça, je pense que c'est vraiment apprendre, se former en permanence, c'est une vraie nécessité quand on travaille sur le recrutement.
T'as balancé plein de sujets là.
Oui, elle n'est pas finie.
Et du coup, je rebondis sur le sourcing. On parle beaucoup d'approche directe ou d'inbound. Aujourd'hui, on est sur la mode justement de l'inbound. Mm-hmm. On a plus en plus de cabinets qui disruptent un peu, qui veulent bouger les lignes, hein, finalement, sortir des modèles d'approche directe ou bien de la base de candidats qu'on a et qu'on appelle pour requalifier. Mm-hmm. Quelle dose tu vas mettre? Est-ce que tu changes par rapport aux fonctions qui sont demandées, aux métiers? Parce qu'il y a des métiers où l'inbound, ça marche pas. Mm-hmm. Comment tu vois les choses, toi, sur cette partie sourcing de candidats?
Je pense que ça va dépendre effectivement de pas mal de choses, de la culture de l'entreprise, mais aussi de sa notoriété, mm-hmm. Savoir si elle est connue, peut-être de comment le secteur d'activité est perçu, parce que ça, c'est un vrai sujet. Si le secteur a pas très bonne presse, on part quand même avec un gros handicap quand on recrute.
Tout à fait.
Est-ce que on est sur des compétences pénuriques ou au contraire est-ce qu'on a trop de candidats et la question ça va être plutôt d'évaluer, de trouver la bonne personne pour le contexte. Et je pense que c'est en fonction de ces paramètres-là qu'on va décider et puis aussi des moyens finalement qu'on va avoir, des personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer dans l'entreprise.
Trop cool.
Okay. Si on n'a pas du tout d'habitude, de compétences sur la marque employeur, c'est quelque chose qui va quand même prendre un peu de temps.
Ouais.
Je dirais déjà, si on travaille sur une bonne annonce avec du copywriting et puis des informations clés qui sont spécifiques et qui reflètent vraiment le contexte, et puis si on va en parallèle chercher les candidats, je pense que déjà sur ces deux leviers-là, on va pouvoir déjà faire de belles choses. Et puis ensuite, avoir une stratégie un peu plus longue pour remettre en place... faire connaître aussi le poste, le métier, le secteur et donner envie aux candidats de venir.
Et c'est ça la dimension stratégique du recrutement qui est le thème d'aujourd'hui. Au final, c'est que on a souvent recruté en one shot, en passant par des prestataires ou en interne. Mais aujourd'hui, il faut parler de l'entreprise, il faut parler du marché, il faut expliquer, il faut créer de la valeur, il faut créer de l'engagement, il faut créer de l'attachement. Et ça fait partie du recrutement. Cette marque employeur qui doit définir la culture de l'entreprise, il y a aussi des étapes en amont. Mm-hmm. Ça, on en parlera tout à l'heure du culture fit, etc. Mais je vais pas forcément creuser sur cette partie. Là, quoique tu accompagnes au final des entreprises plutôt sur le global dans les RH aussi, même si ça appartient très clairement au recrutement par rapport à ta fonction. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà travaillé sur la construction des cultures et des valeurs des entreprises, de tes clients?
Alors, ça va pas être ma spécialité, mais c'est des choses que je vais identifier, ouais, en fait. Et j'en ai besoin. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment aller recueillir du verbatim auprès des collaborateurs, ouais, savoir ce qui les motive, en fait, à faire leur métier, ce qu'ils aiment dans l'entreprise, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent.
Ouais.
Et donc ça me permet d'identifier aussi des éléments communs. Ou se dire, tiens, on est plutôt dans une entreprise avec une culture familiale où on est très en proximité avec la direction, où on dit les choses, quitte à pas être trop diplomate. Mais voilà, donc ça permet d'identifier vraiment des éléments qui vont personnaliser, ouais, et qui vont déjà donner des éléments de culture et permettre d'identifier la proposition de valeur. Alors, peut-être pas de l'entreprise, mais du job,
ouais, ouais,
de l'équipe,
du service,
aussi
de l'équipe,
du service, ouais, et voir justement à qui ça peut plaire ou pas, en fait. Donc,
yes,
ça, c'est un élément qui est important. Et je pense que le fait de se connaître, parce qu'il y a finalement beaucoup de méconnaissance, je trouve, de la part des entreprises, et de savoir vraiment ce qu'elles renvoient sur le marché et quels vont être leurs points forts réels ou pas. Et souvent, voilà, une startup se dit que voilà, elle a un super projet, elle avance vite, ça va être hyper séduisant pour les candidats. Et pas toujours, parce que ça fait peur.
Bah clairement, c'est l'instabilité.
Et ça fait peur aux seniors,
notamment.
Aux confirmés, qui se disent bah non, voilà, il y a quand même une part de risque importante. Et donc c'est, on peut pas mentir sur ça en fait. Par contre, c'est de dire bah c'est quoi le projet si demain on s'engage ensemble, sur quoi on va travailler concrètement, à quoi vous allez participer.
Bah, c'est le candidat sécurité en fait. Hein. On a vraiment des typologies de candidats différentes. Mmh. Et du coup, comment on peut qualifier ce culture fit et détecter les candidats qui correspondent à ça? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé en disant que tu parlais à plusieurs collaborateurs en interne ou tu creusais un petit peu justement cette partie-là. Concrètement, c'est quoi les actions que tu mets en place quand tu démarres un accompagnement avec un client? Tu vas, j'imagine, voir d'abord la direction. Et ensuite, c'est quoi? C'est descendant? Tu vas passer du temps en interne? Comment tu agis?
Alors, c'est variable parce que on peut pas tout changer d'un seul coup. Et le recrutement reste encore dans beaucoup d'entreprises complètement décorrélé du reste. Donc, je pense tu l'as sans doute rencontré, mais il arrive encore qu'on te balance une fiche de poste par mail en disant, bah voilà, je cherche, un ingénieur Java, un comptable et vas-y, sur une fiche de poste qui donne finalement pas beaucoup d'éléments.
Ça marche plus aujourd'hui.
À part ce que tu peux trouver sur Internet. Et ça, c'est pas suffisant. On peut pas trouver. Ça marche pas. Ou alors, si ça marche, c'est un peu sur un malentendu et ça dure pas. Parce qu'il y a un autre enjeu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'intégration, c'est-à-dire que le recrutement, il s'arrête pas une fois qu'on a signé la promesse d'embauche. C'est comment on va accompagner la prise de poste, comment on va donner envie à la personne de rester et de s'engager. Sachant qu'il y a à peu près 40% de candidats qui pensent quitter l'entreprise en période d'essai.
Oui.
Donc, c'est énorme.
Bah, on a déjà parlé un petit peu de ça. C'est déjà de pouvoir faire une roadmap à 3, 6, 12, 18. Ça sécurise un petit peu parce qu'on arrive à se projeter. Une fois que le candidat se projette, c'est peut-être un peu plus simple aussi. Après, il est évident qu'il y a des process à mettre en place pour l'arrivée des collaborateurs. Qu'il faut que son poste de travail soit prêt, il corresponde à ses attentes aussi. Bon, je parle surtout des devs qui ont parfois des besoins sur Linux ou sur iOS, etc. Ça dépend un petit peu des outils qu'ils utilisent au quotidien, de prévenir les équipes, qu'ils se sentent bien à son arrivée. Et il y a une phase aussi de pré-onboarding, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où le candidat il signe son contrat et le moment où il arrive dans l'entreprise, il peut se passer 2, 3, 4 mois.
C'est très long.
Et parfois, en fait, on oublie que cette phase-là, elle est déterminante. Oui. Et il faut garder ce fameux lien dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, comment on fait? Alors, en interne, il y a des trucs qui sont mis en place via des ATS, justement, qui sont ultra performants et qui permettent de faire du nurturing de candidats déjà validés. Donc ça, c'est plutôt efficace. Et en tant que prestat externe, comment garder ce lien-là une fois que le contrat est signé, avant que ça arrive, avant que le candidat ou la candidate arrive à son poste? Comment, toi, tu gères cette partie-là?
Alors, je pense que ça se construit, c'est un peu ce qu'on, dans l'évolution du recrutement, je me dis l'enjeu, là, il est vraiment de créer, de donner envie de coopérer à tout le monde, de travailler ensemble. Et effectivement, ça se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, je vais intégrer quelqu'un et sans y mettre toute l'intention. Donc, je pense que le principal, c'est vraiment d'avoir l'intention d'accueillir la personne au mieux.
Clairement.
Et ça doit partir de la direction. Se dire, quelle que soit la personne qu'on accueille, quel que soit son niveau de poste, l'expérience qu'on va lui apporter, c'est un enjeu important. Il y a des projets de vie derrière. Donc, c'est, comment on va faire en sorte que cette expérience et ses premiers pas chez nous soient les mieux possibles. Et surtout, il y a un enjeu de performance aussi derrière. C'est mieux on intègre, plus on donne les clés à la personne pour comprendre l'entreprise, pour savoir à qui s'adresser, pour comprendre son rôle, plus on va lui permettre d'être opérationnel rapidement aussi.
Et est-ce que c'est OK pour toi, par exemple, d'envoyer des petites formations sur des outils qu'il ne maîtriserait pas avant que le candidat ou la candidate arrive en poste? Est-ce que c'est OK pour toi? Comment c'est perçu?
C'est vraiment, je pense, à construire avec la personne.
Ouais.
Parce que t'en as qui vont être hyper rassurés de se dire, ah oui, d'accord, je vais avoir ça comme sujet, je peux déjà me renseigner. Et d'autres qui vont pas vouloir, qui vont se dire, je break avant ma prise de poste. Et je pense que c'est vraiment à construire en sur-mesure. Il y a un sujet, c'est important d'outiller les managers, en fait, que les RH soient pas seuls sur les sujets d'intégration.
C'est sûr.
Et que ce soit le sujet de tout le monde, en fait, des managers, mais aussi de l'équipe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est construire finalement un onboarding où chacun va avoir un rôle à jouer pour la réussite de la personne qui arrive.
Très clair, c'est une bonne démarche. Et ça me permet peut-être de faire la transition sur la deuxième thématique qui est prestataire. C'est quoi l'avenir au final? On a parlé tout à l'heure des cabinets qui sont des grosse machine et qui fonctionnent très bien, qui travaillent très très bien et qui ont des super résultats, qui fonctionnent au succès. Donc, c'est des commissions sur les rémunérations brutes en général où on inclut une partie variable, etc. On voit l'émergence aussi pas mal de RPO. Toi, t'es sur quel modèle économique et comment tu perçois un petit peu le marché aujourd'hui?
Alors c'est vraiment mon cheval de bataille en fait. Quand je me suis lancée, c'était me dire comment je peux revisiter le modèle économique de la prestation de recrutement pour encourager les bonnes pratiques et surtout pour pouvoir faire du recrutement un levier pour améliorer les choses en fait, pour dire bah on y a plein de problématiques aujourd'hui et comment on fait pour en faire un levier pour améliorer le monde du travail de demain. Et ça, aujourd'hui, je pense que le mode de fonctionnement, alors c'est peut-être pas le succès qui pose problème, c'est le fait de rémunérer la transaction. Et en fait, c'est on rémunère le recrutement le moment où on signe.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est tous les effets collatéraux qui sont importants. C'est le comment on va faire, c'est le soin qu'on va apporter à la qualité du lien, à comprendre l'entreprise, à creuser le potentiel des personnes, comment voilà, on va soigner l'approche, parce que ça va avoir un impact énorme sur l'image de l'entreprise
c'est
aussi.
Sûr, c'est sûr.
C'est toute la manière dont on va travailler le comment finalement et les conditions de recrutement qui va être important et qui va créer de la valeur. Et donc aujourd'hui, je travaille alors deux modèles. J'ai un modèle voilà un peu RPO finalement, mais qui va plus être dans l'optique de se dire on décorrèle la facturation de la transaction.
Sachant qu'il y a plein de modèles de RPO différents.
Oui, il y a plein de modèles de RPO. Mais dis parfois, tu vois, le recrutement, c'est pas la réponse aux besoins.
Est-ce que tu peux expliquer le RPO pour peut-être des auditeurs qui connaissent pas le modèle?
Le RPO, tu vas facturer finalement au temps passé dans une entreprise, et donc on va rémunérer tes compétences un peu comme si t'étais un salarié, mais voilà externalisé qui va s'intégrer dans une équipe et qui va sourcer, faire passer les entretiens. Donc ça c'est le modèle le plus classique.
Okay.
Maintenant on peut aller travailler sur d'autres sujets que le recrutement finalement. Et se dire l'enjeu ça va être de travailler d'abord sur les compétences, ça va être peut-être de structurer aussi le recrutement, les fiches de poste, les outils qu'on va utiliser en recrutement.
Ok.
Donc
et du coup c'est en ça que tu disais tout à l'heure que le recrutement n'est pas une baguette magique. En fait, avant d'arriver à la phase de recrutement, est-ce que le travail a été fait pour savoir s'il y avait pas les compétences en interne, etc. Et en fait, le RPO te permet aussi d'avoir cette position-là, comme t'es pas facturé au succès. T'es pas obligé entre guillemets de recruter à la fin et d'arriver à cette intégration d'un collaborateur qui était la mission au départ. En sachant que j'explique aussi un petit peu le RPO. Généralement, on a plusieurs postes. C'est assez rare d'avoir un seul poste en tête. Généralement, c'est un projet sur une année ou plus où on a 5, 6, 10, 15, 20 recrutements. Et c'est là que tu interviens en tant que partenaire. Et du coup, ça va plus loin que simplement une mission recrutement sur un profil. On va vraiment essayer d'apporter une réponse plus stratégique, d'où le thème d'aujourd'hui, et de pouvoir trouver potentiellement d'autres moyens de recruter par l'interne, par de la cooptation, etc. Et c'est ça ton rôle aujourd'hui, et c'est ça que tu proposes.
Pas forcément, c'est un modèle intermédiaire que j'ai expérimenté aussi l'année dernière. Je trouve que c'est une évolution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ça propose au moins une alternative.
Tu tises trop là.
Mais je pense qu'on peut aller plus loin.
Ouais.
Parce que on valorise le temps passé finalement. Et ça, je pense que ça, on va pas assez loin. Donc aujourd'hui là, j'explore plutôt un modèle où je vais facturer la valeur qu'on va créer ensemble. Donc le travail justement sur la proposition de valeur de l'entreprise.
Trop bien.
Et ce qui va permettre d'identifier déjà ce qui va dans l'entreprise, de comprendre un peu ce qui fait son identité, ce qu'elle a à proposer, et aussi de pouvoir se dire un peu compliqué, mes collaborateurs ils se sentent seuls, peut-être que il faut que j'organise plus de choses, peut-être que je dois revoir mes rituels managériaux, etc. Donc c'est déjà travailler là-dessus sur la proposition de valeur, et ensuite
c'est un peu une lanceuse d'alerte en fait, parfois
c'est un peu une lanceuse, mais alors je pense que c'est super important de partir de ce qui va bien en fait, et de commencer par là. Parce que c'est pas évident quand on parle recrutement, on se dit les méchants employeurs et les gentils candidats, mais il y a aussi le métier est difficile en fait, le recrutement est difficile.
Bien sûr.
On a cette illusion de se dire que on peut envoyer des CV et c'est ça, mais non. En fait, l'enjeu il va être vraiment de créer, de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir envie de faire des choses ensemble.
Carrément.
Donc il y a de la complexité derrière et la posture des employeurs, alors qu'on soit RH manager, dirigeant, dirigeante, elle est pas simple, en fait, parce que la prise de décision, elle est hyper engageante dans un recrutement.
Bien sûr.
Et donc, on va avoir aussi tendance peut-être à prendre des décisions basées sur la peur et pas forcément sur la confiance qu'on peut avoir, voilà, se dire sur un pari, sur un potentiel.
Et tu penses que toi, de manière générale, cette position d'arriver en tant que prestataire, donc externalisé et pas collaborateur interne, mm-hmm. ça te permet d'avoir une latitude plus importante ou une force de conviction plus grande que par exemple un RH qui serait en interne. Qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée?
Alors, je pense que c'est complémentaire.
Ouais.
C'était aussi personnel. Enfin, j'ai eu envie d'entreprendre parce que j'avais envie de tester aussi ça, en fait, ce mode de fonctionnement, cette vague là de freelance qui est arrivée là sur les dernières années. Ça répond, je pense, aussi à un besoin d'équilibre, d'un meilleur équilibre, entre le travail et le reste.
Ouais, aussi.
Et je pense qu'aussi, en tout cas, dans le métier du recrutement, dans le RH, ça laisse une grande liberté finalement d'opinion, c'est-à-dire qu'on peut dire les choses. On est complètement libre et donc il y a une vraie indépendance, une liberté de ton aussi. On peut dire les choses en accompagnant.
Okay.
Ce qu'on ne peut pas toujours faire, je pense, quand on est en interne.
Très clair. Et tu es arrivé sur des projets. Alors, tu m'as expliqué aussi que parfois tu es arrivé, il n'y avait pas de RH en place.
Oui.
Et du coup, tu prenais des missions qui étaient relativement longues. Et tu parlais de co-construction tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu es arrivé sur une mission, mais l'objectif final, c'était qu'il y ait quelqu'un qui prenne ta place à la fin.
Oui, c'est ça.
Donc, tu as créé un poste RH et en fait, ça sécurise aussi le recrutement du prochain ou de la prochaine RH avec un périmètre qui est défini, des missions, des outils en place. Et tu es arrivé de zéro. Comment tu as mis en place ça et est-ce que tu penses que c'est duplicable finalement?
Alors, j'aimerais bien, c'est un des aspects là que j'aimerais bien développer. Alors, vous dites des clients, mais je ne l'ai pas non plus fait. je démarre. Mais effectivement, l'enjeu, ça a été au départ recrutement et finalement, on a travaillé plutôt sur la stratégie de développement.
Cool.
Et sur quels sont les grands projets qui vont être prioritaires pour l'entreprise. Est-ce que ça va être d'identifier les envies d'évolution des collaborateurs en interne. Ils sont là depuis 3-4 ans. Comment ils se projettent? Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences? Est-ce qu'ils sont accompagnés pour ça? La prise de poste des managers, c'est aussi de se dire comment on peut donner un peu plus de confort et faire en sorte qu'ils travaillent ou qu'ils construisent leur posture de manager avec qui ils sont, en partant aussi de leur personnalité. Il y a les enjeux d'onboarding.
Ouais.
C'est un vrai, vrai, vrai gros sujet. Souvent dans les entreprises, on dit oui, là, on a un onboarding et puis la première journée est passée et ça y est, on lance la personne dans le bain sur ses fonctions et le développement des compétences. Et donc ça, je pense que c'est un vrai, ça va être peut-être au cœur des sujets de comment on va détecter la compétence, comment on va l'intégrer et comment on va la développer.
Et alors comment on fait?
Je pense qu'il y a la compréhension du besoin en amont.
Ouais.
On part toujours un peu de la même chose, mais se dire quel est le besoin, de quoi on a, où on veut arriver, et comment ça va se traduire finalement en critères.
Ok. Donc t'établis une scorecard à chaque fois en partant d'un besoin initial où tu vas aller mapper, tu vas aller interroger, tu vas aller discuter et tu vas comprendre les métiers, les fonctions, l'organisation. Et à partir de là, tu commences une réflexion et tu dois arriver aussi à un point où tu projettes dans l'avenir. Et c'est en fonction de tout ça que tu vas prendre une décision pour établir un besoin précis dans l'entreprise.
Oui. Effectivement, en fait, il y a tout ce travail. Alors sur la scorecard, tu vois, c'est un outil. Aujourd'hui, on a ce nom-là. Il y a quelques années, on n'en parlait pas de la scorecard, mais on travaillait de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à sortir finalement du recrutement un peu sur profil où on va chercher telle école, telle expérience dans tel secteur d'activité.
Armer des clones.
Voilà, et ramener des clones et aller vraiment identifier les bonnes compétences.
Ouais.
C'est-à-dire, je donne un exemple sur de la relation client, par exemple, plutôt que chercher quelqu'un qui a fait du phoning, c'est pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui vient de la restauration, parce que c'est quelqu'un qui aura appris à identifier un problème, à créer de la confiance, à proposer une solution. Donc, et à réagir en cas de stress, par exemple.
C'est ça.
C'est vraiment identifier les compétences clés plutôt que l'expérience. Et je pense que c'est cette condition-là qui va faire qu'on va pouvoir aussi anticiper les déficits de compétences qu'on a aujourd'hui et qui vont faire que s'amplifier, notamment sur les hard skills, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire justement. C'est aujourd'hui, on est plus sur une détection des soft skills. Les hard skills sont vérifiables. Ils sont vérifiables par le CV, par l'expérience, par peut-être des exercices par moment. Je pense aux développeurs, des tests techniques, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, la priorité pour justement atteindre ce fit culturel avec la future entreprise et le candidat ou la candidate, c'est de pouvoir valoriser, estimer, ces soft skills là, mais c'est pas facile en fait. Et alors quelles sont les techniques à mettre en œuvre pour pouvoir être certain ou au moins minimiser le taux d'erreur sur une évaluation de soft skills type aisance relationnelle par exemple.
Alors il y a les soft skills et je pense qu'il y a quelque chose encore plus important, c'est les moteurs et les besoins en fait des personnes. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde que très peu alors que c'est crucial. Donc, je pense que ça va être à la croisée de le raisonnement, la manière dont la personne va apprendre, va s'acculturer à des nouveaux sujets.
Clairement.
On va pouvoir travailler sur les zones de confort ou d'effort, donc les comportements naturels, identifier aussi ce que la personne fait de mieux dans ces zones de confort, sur quoi elle a envie de travailler aussi potentiellement.
Potentiellement.
Et puis effectivement, qu'est-ce qui va la mettre en mouvement, qu'est-ce qui va lui permettre de s'engager, avoir envie de s'engager dans la durée, donner du sens, qu'est-ce qui va au contraire être potentiellement démotivant, et puis les besoins, parce qu'il y a des choses très concrètes finalement. Je suis pas trop du matin, j'ai besoin d'avoir telle chose pour mon équilibre familial, et c'est des choses aujourd'hui qu'on a besoin d'intégrer en fait.
Et comment tu les évalues alors du coup ces valeurs du candidat, du coup, parce que c'est difficile finalement.
C'est vraiment la confrontation. Et donc c'est la connaissance la plus approfondie qu'on puisse avoir finalement du contexte. Mm-hmm. Et puis l'entretien structuré. Ouais. Alors tout le travail qu'on fait en amont avec le.
C'est vrai qu'on en a pas encore parlé.
On n'a pas parlé, mais voilà, peut-être moins. Mais je pense que c'est quand même stratégique parce que c'est tout ce travail qu'on fait en amont qui va permettre justement d'aller détecter du potentiel et de s'ouvrir à des profils qui sont moins contactés, qui sont moins sollicités et qui peuvent pourtant apporter beaucoup à l'entreprise.
Et ça, c'est une vraie dimension stratégique finalement du recrutement dans l'entreprise, parce que d'arrêter de recruter des clones et d'essayer d'avoir tout le monde dans le même moule, en fait, on appelle ça de la diversité-inclusion en fait, dans l'ensemble. C'est pas uniquement le recruter des personnes porteuses de handicap ou bien essayer d'avoir une égalité homme-femme, etc. La diversité des profils, c'est aussi d'avoir des gens qui sont simplement différents culturellement. Et en fait, c'est une énorme valeur ajoutée pour les entreprises. Parce que du coup, il y a de la confrontation, il y a des idées qui peuvent ressortir de ça. Et toi, en tant que justement prestataire sur le recrutement et sur cette dimension stratégique RH, est-ce que tu as déjà été confronté à des clients qui ont un peu ce mode de recrutement où je veux quelqu'un qui sort de telle école, qui a tant d'expérience, qui connaît déjà ce secteur d'activité là et qui est pas capable en fait de sortir de ce scope là? Et on sait que ça a créé quand même des grosses problématiques sur des grosses entreprises ou des plus petites. Et comment tu arrives à convaincre finalement ton client du bien fondé de diversifier les collaborateurs internes?
C'est la rencontre. En fait, je pense on parlait par exemple un peu de consanguinité. C'est un mot qui est assez fort, mais je trouve qui est parlant. Et c'est un vrai risque parce que c'est ça met en question la résilience de l'entreprise en cas de problème, sa capacité à innover. Quand on recrute, toujours un peu dans le même cercle des personnes qui ont le même mode de pensée. On a plus de mal à s'adapter, en tout cas, au revers. Et donc, il y a ce sujet-là. Et après, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité sociétale. En fait, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où peut-être la moitié des personnes n'ont pas accès en fait à l'emploi sur des sujets qui sont complètement injustes. Je pense la discrimination qui touche tout le monde, c'est l'âge pour le coup. Donc l'âge, on est tous touchés.
Clairement.
Et pourtant, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas recruter de seniors entre guillemets et encore moins les intégrer. Et il y a des vrais freins qui peuvent être légitimes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des peurs, des freins, mais je trouve qu'on a une responsabilité à les comprendre et à les dépasser. Et moi, en tant que prestataire, alors c'est complexe, parce que il y a un enjeu de confiance en fait quand on travaille en recrutement. Demain, il suffit pas de proposer un CV pour que le recrutement se fasse.
Ça, c'est
certain. Il faut d'abord créer la confiance entre tout le monde et puis expliquer pourquoi aussi on propose telle ou telle personne. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours, même si on me dit, moi, je veux telle école, c'est de se dire, pourquoi pas, ok, je vais partir de cette recherche puisque c'est le référentiel de mon client. Mais je vais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, ces exigences. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le réseau? C'est quoi? C'est le prestige de l'école? C'est qu'est-ce que c'est l'exigence intellectuelle? C'est quoi le fond et qu'est-ce qu'on cherche, et d'arriver ensuite à trouver la même chose, mais différemment.
Mais transposé.
Transposé.
Ok. Et je rebondis sur la problématique de l'emploi des seniors. Mm-hmm. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui qui sont intéressantes sur peut-être recruter des seniors sur des fonctions plus de mentorat ou sur de l'aide, parce que on entend plein d'entreprises qui disent oui, mais les seniors, alors je trouve ça horrible de dire ça, hein, mais clairement c'est un sujet et moi j'ai pas envie qu'on masque ça parce que c'est vrai, c'est une vraie question. Savent pas se servir de certains outils, ils sont lents, etc. Alors déjà les trois quarts du temps c'est complètement faux. La Gen Z, elle est pas forcément plus efficace sur les outils numériques de d'aujourd'hui, peut-être parce que ils ont l'impression de savoir déjà maîtriser les choses alors qu'ils, du coup, ils se forment pas jusqu'au bout. Désolé l'équipe. Et puis on a aussi cette notion d'apporter une expérience, d'apporter une connaissance tout au long d'une carrière. C'est pas parce qu'on ne connaît pas un marché qu'on peut pas apporter des choses différentes. Et du coup, cette notion que les entreprises sont dans le même moule, d'apporter des personnalités seniors qui ont connu plein de choses. Peut-être qu'ils n'auront pas la compétence que l'entreprise recherche initialement, mais ils peuvent apporter justement un nouveau souffle et une vision un petit peu différente et accentuer ce côté diversité et inclusion. Donc oui, il y a on se pose la question, est-ce que ça a de la valeur ajoutée? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça?
Je pense qu'il y a beaucoup de freins en fait qui sont très variables. Mais alors déjà sur le fait la crainte quant à l'adaptation aux outils, souvent effectivement c'est faux parce que quand tu as des gens qui ont 30 ans de carrière, ils ont connu des évolutions.
Ils sont adaptés déjà en fait.
Ils sont déjà adaptés.
Bah oui.
Donc ils ont déjà prouvé aussi leur capacité à s'adapter. Après il y a souvent le frein de la rémunération, c'est qu'on se dit que quelqu'un qui a de plus confirmé va il y a ce sujet-là.
Ce qui n'est pas forcément vrai non plus.
Ce qui n'est pas forcément vrai. Et après, qui pose aussi la question de comment on rémunère aussi la politique de rémunération. Donc là, on va lancer d'autres sujets. Et puis, il y a l'intégration souvent dans l'équipe ou alors le management. Les managers peuvent avoir aussi une crainte à se dire, je vais manager quelqu'un qui a trois fois plus d'expérience que moi. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va venir aux after-work avec nous? Donc, il y a plein de questions finalement qui sont très, très concrètes et je pense qu'ils doivent être mises sur la table en fait, ils doivent se poser la question.
C'est sûr.
Et c'est peut-être pour faire la transition avec le culture fit, c'est est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui va parfaitement se fondre dans la culture de l'entreprise, ou est-ce qu'on va aller chercher du culture add et on va chercher quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, différent. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. On peut pas le faire n'importe quand, je pense qu'il faut être prêt aussi. Faut pas se dire je vais aller absolument chercher à recruter des gens qui sont complètement différents de notre mode de fonctionnement, mais ça se construit dans le temps en tout cas.
Et de toute façon, la culture, c'est l'anthropologie. Au final, la culture, c'est fait pour évoluer. On n'est pas figé dans le temps. Et la culture, elle doit être challengée tous les ans et par l'intégration de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux clients auxquels on doit s'adapter, parce que parfois la culture, elle vient aussi des clients. Faut pas oublier. Et cette notion-là, en fait, le fait de pouvoir se libérer du poids de la culture aussi, parce que c'est un poids dans le recrutement de se dire est-ce que cette personne-là, elle est intégrable dans l'entreprise, ça peut aussi ouvrir les chakras sur certains recrutements et libérer certaines pensées. Cette notion aussi de mentorat, c'est marrant parce que c'est une question que je posais régulièrement à des collaborateurs qui n'étaient pas à vocation à manager. Est-ce que vous êtes OK pour être managé par quelqu'un de plus jeune que vous? Alors, ce qui est drôle, c'est que la réponse, elle est souvent pas de souci. Par contre, l'inverse, est-ce que vous êtes prêt à manager des gens qui sont plus âgés que vous, plus expérimentés que vous? C'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je pense que le périmètre que tu mets en place aujourd'hui sur l'accompagnement, il peut détecter ces problématiques-là, parce que la formation, elle est hyper importante, notamment des managers. Et aujourd'hui, les managers sont pas assez formés en France.
Et c'est la question de la légitimité. On attend en fait d'un manager qui soit un manager né, alors que ça nécessite de bien se connaître, de comprendre, d'avoir des compétences interpersonnelles, de s'intéresser aux autres aussi, de comprendre comment chacun fonctionne, bien comprendre les objectifs aussi vers lesquels on veut aller. Et puis il y a des techniques aussi, mais je pense que c'est beaucoup de travail finalement sur soi et avec les autres.
Oui.
Et c'est vrai que la formation des managers, ça pose la question de la légitimité aussi, mais toujours de l'accompagnement, finalement, du développement des compétences. C'est comment on aide en tout cas les salariés à évoluer dans l'entreprise et dans un monde où, voilà, la compétence, elle est vite obsolète, finalement. C'est ça. Où il y a de moins en moins de volontaires sur des postes de management.
C'est ça. Et aussi le fait d'inclure le manager dans le recrutement, parce que c'est souvent le cas. Hein. Généralement, il y en a quand même un qui a son mot à dire, c'est manager, c'est normal. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils sont formés au recrutement?
Alors ça, c'est un vrai problème. Et il y a beaucoup de malaise aussi, c'est-à-dire que les managers qui sont amenés à recruter, qui font passer des entretiens, sont pas toujours très à l'aise avec ça, parce qu'on a une vision très consensuelle finalement des entretiens, des RH, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, on se dit c'est un peu décorrélé du terrain, et on sait pas finalement ce qu'on doit attendre d'un entretien et quel est l'objectif d'un entretien. Donc,
c'est un peu la face cachée de la professionnalisation du recrutement, c'est que c'est devenu une fonction qui est centrale, qui est stratégique dans l'entreprise, mais au final qui descend plus ou pas assez peut-être, et que du coup les parties prenantes des projets de recrutement sont pas tous au fait, pas tous formés. Et quand on fait un process à la rallonge, en fait on multiplie les biais. Donc c'est vrai que c'est toujours important, je pense, que quand on prend une fonction en RPO ou en tant que prestataire externe, de venir challenger aussi cette partie-là et de former finalement les hiring managers à certaines méthodes peut-être basiques, mais mine de rien, avoir les bases, ça peut éviter quand même pas mal de surprises au cours des process et réduire les risques d'échec.
Oui.
Est-ce que on parle aussi, on va conclure là-dessus sur la rétention des talents, parce qu'on a fait un petit peu le tour. Le recrutement, c'est bien, et maintenant comment on fait pour garder les talents en entreprise? Normalement, si on a suivi toutes les étapes dont on a parlé jusqu'à maintenant, bien comprendre le besoin, bien recruter sur le culture fit aussi, peut-être parfois sortir du cadre, mais en étant en compréhension complète de la structure de l'entreprise, établir une roadmap à 3, 6, 12, 18, 24 mois, normalement, on se dit c'est OK. Mais en fait, la réalité, elle est quand même différente.
Comment on fait? En fait, le recrutement, ça va être une partie finalement de la vie des salariés. C'est un enjeu qui est super important dans l'entreprise. Tu as plus de 50% des dirigeants en France qui estiment que leur difficulté à recruter est un risque pour leur entreprise. Pour plein de raisons, parce que on peut pas aller chercher de nouveaux marchés, on risque de l'équipe est en surchauffe et on va avoir des démissions. C'est vraiment un risque pour la moitié des dirigeants français.
C'est énorme.
Oui, donc c'est énorme. Et pourtant, encore aujourd'hui, on donne pas les moyens nécessaires pour que le recrutement soit corrélé vraiment et intégré à la stratégie. Et quand tu travailles en recrutement, en fait, t'es confronté à tous les grands sujets de société. Ouais. Le besoin de sens. On a parlé du recrutement des seniors.
L'inversion de la pyramide des âges.
La flexibilité du travail. Ouais. Justement, l'obsolescence, ou en tout cas, la pénurie de compétences. Comment on fait pour accompagner ça? Et si on regarde un peu du côté des candidats, aujourd'hui, les candidats attendent des entreprises qu'elles aient des engagements, en fait, qui soient sociétaux, environnementaux, et que ce soit autre chose que une simple recherche de performance économique. Et pourtant, ça passe un peu encore en second plan, où on en fait un outil de marque employeur, mais pas un outil de développement vraiment stratégique.
Un outil de com, mais pas vraiment un levier en interne, en fait.
Et donc, je pense que c'est un levier de fidélisation. C'est amener du sens par le pourquoi, vraiment ce qu'on va viser, mais au-delà de la recherche de rentabilité financière. La formation, c'est aussi un enjeu super important de fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche quand on travaille, c'est avant tout d'avoir un poste intéressant, pouvoir apprendre, pouvoir évoluer. Ça, c'est des choses qu'on retrouve de manière assez, assez commune auprès de tout le monde. Et l'environnement de travail qui va être quand même très important. Donc, ça va passer aussi par le management. Les managers vont avoir un rôle clé à jouer. Et puis, un environnement serein où on peut travailler, on se sent sécurité psychologique, on va pas mettre sa santé en danger. Donc, il y a tous les enjeux de QVCT qui vont. Et en fait, c'est que le recrutement est en première ligne pour identifier ça, pour détecter, pour le partager à l'entreprise. Ouais. Et c'est aussi un formidable moyen pour l'entreprise de refléter ses efforts et ses valeurs.
Complètement. Ok. Écoute, merci beaucoup. Je voulais conclure sur les ambassadeurs. En fait, c'est aussi un moyen de recruter, mais qu'on utilise très très peu. C'est quoi un ambassadeur?
Bah, alors, je pense que tout le monde, pour le coup, tu vois, là, moi, je me sens ambassadrice, en fait, des entreprises, des projets d'entreprise que je porte. Et au-delà d'être l'ambassadrice d'une entreprise, je vais aussi parler pour son secteur. Je pense que j'ai recruté pas mal dans la transition énergétique, notamment pour le photovoltaïque. Quand j'avais commencé à approcher des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait des freins énormes. Ouais. Personne ne voulait aller dans le photovoltaïque. Et donc, mon travail, c'était aux 50, 60 personnes que j'ai eues, c'était vraiment de faire un peu de pub pour le secteur et de montrer ce qu'il y avait derrière, de montrer l'approche et la diversité d'approche qu'il pouvait y avoir dans le secteur. Donc, voilà, je pense ce rôle d'ambassadeur. Et dans des métiers émergents qui ne sont pas très connus, dans des secteurs émergents, il y a un enjeu aussi à faire connaître les métiers, à montrer aussi voilà, les évolutions d'un secteur et à montrer qu'on peut y aller, même si on n'a pas cette connaissance du secteur.
C'est cette notion de communautaire, en fait, finalement, de création de communautés et de discours autour. Peut-être faire changer les idées aussi, parce que des idées reçues, on en a plein. Mm-hmm. Et en fait... parfois en interne c'est pas du tout aussi noir qu'on l'entend sur certains médias, etc. Et c'est important de pouvoir remettre l'église au milieu du village,
c'est ça. Hein, en transparence, c'est-à-dire sans vouloir embellir la mariée, c'est vraiment en donnant une valoriser, mais tout en montrant la réalité aussi et puis ce qui peut être des contraintes.
Ok. En conclusion, je voulais te demander qui est-ce que tu verrais à ta place cette année dans un prochain Webby.
Oh là là.
C'était pas préparé la question.
C'était pas préparé. Je sais pas du tout.
Tu sais pas du tout?
Non.
Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un de tes clients, ça peut être un autre recruteur, vraiment, globalement, quelqu'un qui est passionnant comme toi et qui pourrait aborder des sujets passionnants comme toi.
Bah, je soumettrai des noms.
Ok. Je ferai un feedback du coup aux auditeurs. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Caroline pour ce moment.
Merci.
Nous, on va aller manger des tapas et on vous dit à la prochaine fois. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.